coup, cette table ronde intitulée « Vers des politiques culturelles de redirection écologique par la coopération », ça s'inscrit dans le prolongement du questionnement central de la journée, du coup, comment franchir un seuil, non plus seulement réduire, compenser, sensibiliser, mais engager une transformation structurelle du secteur culturel à la hauteur des enjeux écologiques. Donc le titre de cette table ronde pose une hypothèse forte, c'est par la coopération que les politiques culturelles de redirection écologique peuvent émerger, par la mise en dialogue d'échelles, de logiques et d'expertise qui peinent encore parfois à se coordonner. Et donc cette hypothèse soulève certaines tensions. D'une part, la coopération suppose un langage commun, des catégories partagées, une capacité à se reconnaître dans des enjeux transversaux. Ce langage est encore largement à construire. Une autre tension tient au mot même de redirection. Rediriger, ce n'est pas seulement réduire son empreinte carbone, optimiser sa logistique, c'est remettre en question les modèles de production et de diffusion, interroger ce que le secteur culturel produit, à quelle échelle et à quel coût écologique. Donc nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, pour réfléchir à ces questions, quatre personnes qui sont engagées à différentes échelles dans la redirection écologique du secteur culturel. Donc Solveig Barbier, qui est déléguée générale et cofondatrice d'Arviva, une association qui accompagne les acteurs du spectacle vivant dans leur transition écologique en proposant des outils, des formations, des espaces de mutualisation à l'échelle du secteur. Mais bon, je pense que chacun aura peut-être un peu l'occasion de présenter mieux que moi leur structure. Nicolas Cardou, du coup, qui est en visio, qui est directeur général culture et art dans la ville et directeur général adjoint ville de Nantes, donc à la Nantes métropole. Emma Covo, qui est coordonnatrice du programme VIF, donc pour une culture vivante, inspirante et fertile, le premier référentiel biodiversité dédié au secteur culturel au sein du coup de COAL, la Coalition pour une écologie culturelle, donc une association qui travaille à l'articulation entre art, culture et écologie à travers des programmes d'accompagnement du secteur culturel. Et enfin, Frédéric Sarr, qui est responsable de la mission transformation écologique de la création au sein de la DGCA, la Direction Générale de la Création Artistique au ministère de la Culture. Donc merci beaucoup à vous quatre d'avoir accepté de prendre part à cette table ronde et à ces discussions. Je vais lancer une première question un petit peu pour commencer cette discussion. Donc ces dernières années, on a vu se multiplier des expérimentations dans le secteur culturel, éco-conditionnalité, nouvelles pratiques de production et de diffusion, mobilité alternative, éco-conception, etc. Pourtant, on semble se heurter aujourd'hui à un plafond de verre. On a des initiatives qui peinent parfois à se pérenniser, des manières de faire plus sobres qui ont du mal à s'inscrire dans des modes de fonctionnement qui n'ont pas toujours fondamentalement changé. Quel bilan tirez-vous de ces expérimentations? Quel levier permettrait à ces nouvelles manières de faire de tenir dans la durée, de s'inscrire dans les dispositifs existants? Qu'est-ce qui fait obstacle aujourd'hui à une redirection écologique du secteur? Et quelles sont les pistes à creuser, les stratégies que vous avez peut-être pu identifier pour contourner ces obstacles? Donc voilà, la question, je vous l'adresse à tous les quatre. Je ne sais pas si...
Je ne vais pas répondre à tout, mais merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. En effet, je vais resituer aussi ce que c'est que Arviva pour donner un peu plus de précision. Arviva, c'est une association qui est née il y a 6 ans. Du rassemblement d'acteurs et d'actrices du secteur du spectacle vivant qui étaient préoccupés par les effets écologiques et environnementaux de leurs activités de tournée, de conception de décors, de production, de communication, de diffusion. Et donc, c'est né comme un réseau d'acteurs et d'actrices qui voulaient se questionner sur comment on fait, partant de ce constat-là et d'une anxiété qu'on n'était pas les seuls à avoir, puisque je crois que l'éco-anxiété est extrêmement forte dans le secteur culturel, si ce n'est anxiété toute seule. Et quand on a... donc moi, je viens du secteur culturel, hein, j'ai travaillé en ensemble de petites paroles, puis après dans une salle de concert, et maintenant, donc, je travaille pour Arviva. Et quand on a créé l'association, enfin, je pense que c'est important de revenir aussi sur un petit historique, quand on a créé l'asso en 2019-2020, ce qu'on avait comme retour, c'était vraiment ce qui se disait là sur l'exception culturelle. Le secteur culturel peut pas se poser la question de l'écologie ou de l'environnement ou de ses effets, puisque ce qu'on fait est tellement beau que nous ne pouvons pas nous poser cette question-là. C'est aux autres industries de se poser la question. Donc on a passé 2-3 ans à essayer de convaincre que malheureusement ça allait pas être possible de se sentir comme ça exempté et qu'il fallait prendre en compte ces enjeux-là. C'est quand même beaucoup plus le cas et on a eu une période entre 2022-21, enfin bon, c'est pas des chiffres extrêmement exacts, mais jusqu'à fin 25, où il y a eu un ensemble de projets qui ont été portés, des appels à projets, Vous appelez à projet en termes de projets verts, alternatives vertes, des commissions au CNM, des éco-conditions captées du ministère de la Culture, voilà, un ensemble de choses dans des régions, dans des collectivités territoriales, qui ont voulu structurer cette transition écologique, qui ont donné lieu à la création de plein de nouveaux projets, plus inspirants les uns que les autres, ambitieux, et aujourd'hui on arrive un peu à un retour, c'est-à-dire que ces projets-là, des fois, ont 3 ans, 4 ans, puis en fait, ne sont pas du tout rentrés dans la normalité ou dans le fonctionnement. On a un enjeu aujourd'hui, et peut-être m'arrêterai juste là pour ma première prise de parole, à dépasser la logique de projet vert. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, comme on veut devenir écolo, c'est comme si à titre personnel, je me disais, bon, pour devenir plus écolo, je vais manger végétarien, mais en rajoutant un repas végétarien à 15h, mais en mangeant encore les repas carnés à midi, à 20h. Et donc aujourd'hui, il commence à être l'heure de supprimer le repas carné de midi ou de 20h ou que sais-je. Et donc on est un peu à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'initiatives qui existent, qui sont vertueuses, ou en tout cas qui sont véritablement plus soutenables à plein d'endroits, mais elles ne peuvent pas se pérenniser, et surtout elles se sont ajoutées à un ensemble de choses qui n'ont pas du tout bougé.
Merci beaucoup. Peut-être je raconterai ce que fait la DGCR dans un deuxième temps. Je crois que c'est plus cohérent que la deuxième question. Mais en tout cas, moi je travaille donc au sein d'une mission au ministère qui est placée auprès du directeur général de la création artistique. Et en fait, le principal, parce qu'on parlait d'obstacles, le principal obstacle que je peux voir, moi, à l'endroit où je suis, c'est celui dont je ne souffre pas, à savoir la question de la priorité politique. Voilà, il se trouve que moi je suis dans une direction où ça a été, enfin, il y a cette mission qui a été créée avec deux postes qui n'arrivent plus jamais au ministère de la Culture et dans tous les ministères. Et il y a eu la création d'une petite mission de deux postes dédiés à ces questions. Donc une priorité politique clairement affichée. Après, sans aller plus loin, étant donné mon devoir de réserve, je n'ai pas l'impression que ce soit une priorité politique totalement partagée dans la terre entière. Voilà. Donc ça, comme, enfin voilà, le premier, en tout cas le premier sujet moi, qui me vient à l'esprit, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est peut-être que, enfin alors ça c'est les témoignages qu'on entend un peu partout et que vous avez déjà dû évoquer, j'imagine dans la matinée, j'étais pas là malheureusement, mais le grand sujet c'est la question du temps. La question du temps, l'absence de temps pour mettre en place tout ça, pour faire cette redirection, pour mettre en place des changements qui soient réellement en profondeur. Et cette question du temps, en fait, elle est à... Alors, on la relie à la question de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, mais c'est juste. Mais je pense que plus globalement, c'est une question... ça pose derrière des questions auxquelles, nous-mêmes, à la DGCR, on ne s'est pas attaqué de manière frontale, pour plein de raisons, qui sont la question de l'organisation du travail et qui sont la question de... qui est la question aussi de l'écosystème de la création artistique et du modèle économique. C'était évoqué par Diego juste avant. C'est le modèle économique au niveau de chacune des structures, mais c'est aussi le modèle économique de l'ensemble du secteur qui reste le même et qui, bah, je pense, crée en lui-même un plafond de verre.
Merci beaucoup. Alors, je disais. nous, on est parti du constat avec Vif que les enjeux de biodiversité concernaient le secteur culturel à chaque étape du cycle de vie d'un projet. Et que pour autant, les acteurs culturels étaient encore très peu outillés sur ces sujets-là. Et donc c'est pour répondre à ce besoin que le programme a été créé. Je tiens à préciser que, certes, il y a Coal, mais il y a aussi les Augures et le cabinet Être et Avoir et Darwin Data. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi une initiative de soutenir les alternatives vertes pour la culture. Et on a aussi associé l'Institut Michel Serres autour des enjeux de comptabilité écosystémique, d'habitabilité des territoires et de changement transformateur. Pendant plus d'un an, on a construit donc une démarche de recherche-action avec une communauté de 50 structures d'horizons variés. On a des centres d'art et lieux culturels comme le Centre d'art et de paysage de Bastivière, mais aussi la Friche Label Le Mai, le Citron Jaune qu'on a vu tout à l'heure. On a aussi des lieux et établissements culturels, des domaines patrimoniaux, mais également aussi parmi les membres de la communauté, des départements, des collectivités, et aussi des tiers-lieux et d'autres initiatives citoyennes. Et aussi, on a impliqué des acteurs de la préservation de la nature, comme l'OFB, l'ONF, la LPO. Et on a un comité d'experts aussi qui nous a accompagnés pendant un an, notamment le ministère de la Culture, le CNRS, des agences normandes de biodiversité, etc. Pour faire ce programme, on est parti de 4 cas d'études pour être sûr que ça couvre une diversité de contextes, de milieux et de contraintes. On est parti d'une exposition intérieure avec 100% l'exposition à la Villette, une exposition en milieu sensible avec un parcours d'œuvres d'art dans la forêt de Roumar, forêt monumentale qui est portée par la métropole de Rouen-Normandie. On est également parti d'une exposition dans un milieu patrimonial à haute fréquentation qui est l'exposition Grandeur Nature au château de Fontainebleau. Et enfin, avec aussi une commande d'œuvres d'art dans l'espace public, avec la ville de Rouen, qui est en dialogue aussi avec une politique de renaturation de l'espace public. Et ce qui ressort un peu de toutes ces expérimentations de cette année qui s'est écoulée, c'est que les avancées les plus intéressantes ne sont pas forcément les structures qui disposent des moyens financiers les plus importants, mais c'est souvent celles qui ont su inscrire ces enjeux-là dans leur gouvernance, mais aussi créer des coopérations durables et surtout ancrer leurs actions dans des relations de long terme avec leur territoire. Et j'en ai retenu 2 enseignements, mais je ne sais pas si je laisse peut-être un peu la parole à Nicolas et je reviens après.
Non,
si j'enchaîne. Non. Ok. Le premier enseignement, énormément d'enseignements, mais pour cette table ronde, je voulais parler de la manière dont les critères de décision évoluent, parce que quand on intègre les enjeux du vivant en règle générale, les décisions elles reposent plus uniquement sur des critères artistiques, techniques ou économiques, mais il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, notamment les cycles biologiques, mais aussi les capacités d'accueil d'un site, les ressources qui sont disponibles localement, ou encore les effets dans lesquels un projet s'inscrit sur son territoire. Et je voulais notamment parler d'un très bel exemple d'un des membres de notre communauté qui est à Espéran. Pour le contexte, c'est un site du ministère de la Culture qui est situé en Camargue, donc pas très loin du citron jaune. Ils ont des enjeux particulièrement complexes parce que ça regroupe un château, un parc paysager, une réserve archéologique, des collections patrimoniales et aussi le centre du microfilm national de l'Archive de France. Donc un projet assez complexe. Et depuis 2020, l'équipe, ils ont engagé une vraie réflexion sur la responsabilité d'une institution culturelle face à l'érosion du vivant. Et cette démarche, elle a abouti à l'obligation d'une ORE, donc c'est obligation réelle environnementale. Et en gros, c'est un engagement juridique qui est attaché au foncier. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est transmissible aux futurs gestionnaires, donc pendant les 50 ans à venir. Donc ça permet réellement d'inscrire la biodiversité dans la durée. Et donc ils ont créé un comité d'espérance avec... un plan d'action avec plein de choses différentes, mais donc concrètement, pour donner quelques exemples comme ça, l'enjeu c'est qu'à chaque décision, il y ait un arbitrage entre la conservation du patrimoine et du vivant. Donc quand il y a des travaux qui sont susceptibles d'impacter les chauves-souris, on les programme en dehors des périodes de reproduction. Quand il y a une infestation d'insectes, on essaie de la gérer de la manière la plus ciblée et raisonnée possible, etc., etc. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que la biodiversité, elle n'est plus traitée comme un sujet périphérique ou secondaire, mais c'est vraiment un critère de décision à part entière à l'échelle de la gouvernance du lieu. Un deuxième enseignement, et après je m'arrête à ces exemples-là, c'est la réintroduction du temps long, qui est très commune à beaucoup des membres de notre communauté. Mais l'exemple qui nous a particulièrement marqué, c'est derrière le hublot. Donc derrière le hublot, c'est une scène conventionnée dans le Lot, qui est fortement ancrée dans son territoire. Ce qui est intéressant, c'est que Ils considèrent le temps vraiment comme une ressource écologique. Et une fois, ils ont repoussé un chantier de plus d'un an pour pouvoir réouvrir une micro-carrière de pierre plutôt que d'importer de l'étranger cette matière-là. Et donc ici, c'est assez intéressant de voir le fait que on accepte que la temporalité écologique et territoriale, elle puisse primer sur la temporalité du projet. Et voilà déjà un peu deux enseignements. Peut-être juste pour conclure du coup un peu sur tout ce qu'on a appris aussi de ces expériences, c'est que le secteur culturel, il a une double ambition que Lucie Marigny a un peu introduit aussi au début. La première, c'est de réduire son impact, mais la deuxième, c'est surtout de faire évoluer nos manières de voir et de penser. Et on a essayé de un peu répondre à cette double ambition avec le référentiel BIF, en proposant donc deux outils complémentaires qui sont en open source. Donc d'un côté, on a un guide méthodologique qui propose vraiment des bonnes pratiques, des checklists, des ressources juridiques, techniques et des actions très concrètes. Et d'un autre, on a donc un calculateur biodiversité qui permet à la fois d'évaluer les impacts d'un projet sur le vivant et ses dépendances aux écosystèmes. Et contrairement à une grille générique, qui prend aussi en compte le contexte écologique du projet. C'est-à-dire qu'avant de répondre aux différentes questions de l'outil, on renseigne la nature de son site, la sensibilité du milieu, les présences éventuelles de zones protégées ou d'espaces remarquables. Et l'idée de cet outil-là, c'est de l'utiliser un peu, pas que comme outil d'évaluation, mais vraiment comme boussole d'aide à la décision en amont du projet, pour anticiper les principaux points de vigilance. Pendant le projet, il aide à objectiver les arbitrages, et en aval, là, il permet d'évaluer. Et les deux outils, ils sont pensés de façon complémentaire en cycle de vie, pour vraiment, à chaque étape, essayer d'identifier comment éviter, réduire, restaurer, voire régénérer.
Merci beaucoup. Nicolas, est-ce que vous voulez réagir également sur cette question ? On n'entend pas. On vous entend pas.
Est-ce que ça fonctionne là ? Vous
m'entendez ? Ah oui,
normalement, il ne passe pas par ici.
Vous m'entendez ?
Oui.
C'est bon. C'est bon, merci.
Bonjour. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être présent. Je vous remercie pour cette connexion. C'est jamais pratique d'être dans les formats mixtes. Je crois que, en fait, on a eu une période pour répondre à la question. Elle est dans le sens de ce qui a commencé à être dit. On a eu une période où la réflexion a été dense, a été intense. En tout cas, l'endroit des collectivités, ça s'est beaucoup ressenti avec les agendas 21 de la culture qui sont devenus petit à petit des dispositifs et des référentiels, puis des déclarations.
On vous entend plus à nouveau.
Vous m'entendez ?
On avait été coupé en milieu.
Oui, je disais que l'appel de Lille avait été un moment important sur le plan politique, puisque ça avait posé une réflexion à l'endroit des élus et des collectivités. Et nous, ça avait été un point d'appui aussi pour travailler des politiques culturelles qui se fondent avec un pilier de transformation écologique et un pilier d'égalité et de justice sociale. En réalité, je pense que on avance, qu'on a beaucoup plus d'outils aujourd'hui qu'on en avait avant, mais que ces toutes dernières années, et c'est particulièrement depuis 2 ou 3 ans, je ressens moi une forme de régression. Dans les leviers, en tout cas, on est face à cette question de la crise des finances publiques qui fait que tout ce qu'on avait commencé à mettre en place est mis sous tension par des enjeux existentiels. Alors, c'est un peu plus vrai chez nous, en Pays de la Loire, encore qu'ailleurs, puisque on a eu un choix politique que j'espère singulier pour longtemps pour ce pays, d'une région de s'effacer du paysage et politique culturelle. Et la disparition de la région a vraiment accentué l'effet de crise qui existe aujourd'hui sur le secteur culturel. Pour autant, dans ce moment un peu où l'intensité de la transformation écologique du secteur culturel est peut-être suspendue, là, il y a des actes qui ont été posés et qui, pour moi, font de plus en plus référence dans ce qu'on peut demain conduire comme politique culturelle. C'est vrai sur la réduction de l'impact, et c'est vrai effectivement sur notre manière de voir, de donner à voir, de repenser des contenus, de repenser la relation aux visiteurs. Voilà, donc je voudrais juste préciser que je suis directeur général donc à Nantes, en ayant la responsabilité de musées, de bibliothèques, de conservatoires, et que je sens quand même que la réflexion avance plus vite dans certains domaines que dans d'autres. Notamment, c'est moins simple dans des secteurs qui sont dans des économies en tension, comme le spectacle vivant. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a un peu constaté collectivement entre l'association de directeurs de la culture. Après, je pense qu'on aura l'occasion de parler des leviers et de ce qui fait demain un petit peu moteur pour les années qui viennent, en tout cas à notre endroit, sur le plan d'une collectivité.
Merci beaucoup. Oui, peut-être qu'on peut retrouver un petit peu cette question des leviers à certains endroits dans ma deuxième question, qui serait sur la redirection écologique, sans poser des questions fondamentales qui impliquent donc de repenser les manières de travailler. Donc, peut-on parler, alors question rhétorique, peut-on parler d'une nécessité de travailler structurellement autrement plutôt que simplement adapter les pratiques existantes, et du coup, de quelle manière? En quoi la coopération s'impose-t-elle comme condition pour la redirection écologique du secteur culturel? Et comment concrètement peut-elle être mise en œuvre, par exemple à travers les différentes expériences que vous avez pu traverser avec vos structures? La redirection écologique invite aussi à revoir ce qu'on considère comme une réussite, donc au-delà des indicateurs habituels de fréquentation et de rayonnement. Alors aussi, comment on peut repenser les critères de réussite de dispositifs ou de politiques culturelles à hauteur des enjeux écologiques?
Il y a indicateur, donc ça me fait... Je me sens concernée. C'est une question dont j'aimerais parler longtemps et que je trouve assez passionnante. À l'endroit, en tout cas, des politiques publiques, je pense que la question écologique nous a obligés, déjà un petit peu, vous allez voir, je vais vous expliquer, mais c'est humble, mais à faire un peu autrement, dans aussi bien la manière de travailler que dans les mesures qu'on déploie. Il y a trois endroits de se faire autrement, qui est celui de la question du temps que j'évoquais tout à l'heure, bien évidemment, et donc de comment redonner du temps à nos acteurs. Aux acteurs dont on s'occupe. Il y a la question de l'échelle qui a été évoquée par Diego et qui, bien évidemment, se pose quand on est à l'endroit du ministère, en centrale, là, on a le paysage national devant soi. Et puis, il y a la question de la relation qui recoupe celle de la coopération. Et cette question de la relation, c'est aussi bien la relation entre nous, agents, que la relation, les relations qu'on peut générer au sein du secteur, ou que les relations qu'il faut interroger entre le ministère et les acteurs de la création artistique. Voilà, je pense que c'est à tous ces endroits-là. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur la manière dont on travaille à la DGCA sur cette question, mais en gros, on a mis en place ce qu'on appelle vulgairement le mode projet, mais qu'on a essayé de faire de manière plus intelligente. En gros, on travaille avec un collectif d'agents, et ce collectif d'agents est la force vive vraiment de ce chantier qu'on a commencé à développer en 2020. Et c'est un collectif d'agents qui se réunit tous les 15 jours depuis 6 ans, qui a un petit peu bougé, mais c'est gros, il y en a plein qui sont les mêmes, et c'est assez satisfaisant pour que je vous le précise quand même. Donc ça, c'est vraiment dans la méthode de travail au sein de la DGCA. je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais une fois qu'on a commencé à mettre en place des premières mesures, là, on a essayé à chaque fois, enfin, on s'est senti obligé, et ça, on est en train de le réaliser aujourd'hui, on a été obligé de déplacer un peu nos manières de faire, nos manières d'appréhender ces différents dispositifs. D'abord, par quelque chose d'assez évident, mais qui se fait finalement assez peu dans les politiques publiques, c'est le caractère itératif. On est toujours, parce que c'est nouveau, les questions écologiques pour nous, on est toujours en train, on met en place quelque chose, on revient dessus, on le corrige, on repart. Voilà, il y a une capacité de remise en cause qui est réelle, et avec même des processus de recherche en cours pendant que l'action se fait, au lieu de faire l'évaluation a posteriori, comme voilà. Anne est bien au courant de ce sujet. Ensuite, dans les mesures qu'on déploie, je vais vous donner trois petits exemples, vous allez voir, c'est humble hein, comme déplacement de politique publique, mais voilà, on est fiers quand même. Le premier exemple qui est celui des résidences vertes, qui sont des résidences qui donnent du temps à des artistes pour faire leur mue écologique, en lien avec un professionnel de transition écologique. Et ce temps qu'on leur donne, par le biais de la résidence, il est sans obligation de création. C'est un tout petit détail, mais il est assez majeur, et ce n'était pas forcément une évidence du tout à la DGCA, qui est là, enfin, c'est la Direction Générale de la Création, donc il faut donner les conditions de la création. On a fait une première petite expérimentation, et on a été complètement épaté par le succès de ce dispositif, mais aussi par les retours qu'on a eus, où des artistes nous expliquaient qu'ils avaient mis du temps pendant la résidence à réaliser qu'ils avaient du temps. Donc on est quand même, c'est-à-dire qu'on est à un endroit de pressurisation de chacun qui est assez important. Elle est aussi intéressante, elles sont aussi intéressantes ces résidences parce que, c'est évident quand j'ai décrit, mais elles sont dans un décloisonnement entre la culture et la science qu'on ne voit quand même pas tant que ça, même si vous devez le voir un peu plus que moi. Un autre exemple qui est le CACTE, le cadre d'action et de coopération pour la transformation écologique du secteur de la création. Ce CACTE, c'est une espèce de cahier des charges, donc on impose à toutes les structures qu'on finance dans la durée de se lancer dans une démarche d'éco-responsabilité. Et là, les petites nouveautés qu'on a introduites, c'est d'abord une forme de souplesse qui permet à chacun de se l'approprier et de l'adapter à ses réalités. Là encore, c'est quelque chose qu'on fait pas bien dans les ministères, de savoir mettre en place des dispositifs qui vont pouvoir coller aux réalités de chacun, parce qu'on a cette vision nationale, cette vision un peu jacobine, de vouloir imposer quelque chose de manière uniforme. Il y a dans ce CACTE l'adaptabilité, c'est une obligation de moyens et pas de résultats. Là encore, en général, on donne des missions et on veut du résultat derrière. Et c'est très lié à la question de l'évaluation qui a été un gros sujet de discussion, de travail, et aussi de persuasion et de notre hiérarchie et des agents et des acteurs aujourd'hui. C'est une évaluation qui a été pensée pour être uniquement qualitative et qui va se faire à l'endroit de chaque territoire, à l'endroit de chaque région, de manière collective, donc par une évaluation par les pairs, avec des experts, etc., et qui pose un principe de co-responsabilité des partenaires publics et des acteurs. Donc tout ça, ça défrise un petit peu certains, et y compris des acteurs eux-mêmes qui viennent nous voir en disant mais où sont mes indicateurs ? J'ai une scène nationale qui m'a engueulée parce qu'il n'y a pas d'indicateurs, et du coup, c'était pas assez ferme. Et je pense que cette impression de fermeté que donne l'indicateur, elle est complètement fausse. Parce que les indicateurs, on leur fait dire ce qu'ils veulent, parce que c'est pas parce qu'on a un mauvais indicateur que derrière il se passe quoi que ce soit. Bon, bref, je pourrais parler longtemps des indicateurs, comme vous l'avez compris, mais en tous les cas, on a posé d'autres méthodes d'évaluation qui montrent qu'on essaie de faire un pas de côté. Et puis, dernier tout petit exemple, dont je parlerai pas longtemps, mais juste pour le citer, parce qu'il me tient à cœur, on essaie aussi de tisser des ponts à des endroits qui jusque-là, pas du tout travaillé. Et là, on s'est lancé sur un chantier, j'en connais pas encore les conclusions concrètes et ce que ça va donner concrètement, mais sur le lien entre la création, l'écologie et le patrimoine culturel et matériel. Et je pense qu'à cet endroit-là, il y a plein de choses qui peuvent s'inventer et qui sont assez passionnantes.
Voilà. Merci.
Je peux rajouter une petite couche sur les indicateurs. Quand on a créé Arviva, un des premiers projets qu'on a porté, c'était la construction d'un outil de mesure d'impact environnemental adapté aux activités du spectacle vivant. Donc un outil, en gros un calculateur pas uniquement carbone, mais notamment carbone, qui donnait aussi un score biodiversité et un score ressources. Hein, c'est un outil qui s'appelle SEEDS, S-E-E-D-S, simulateur d'empreinte environnementale du spectacle, qui est un outil gratuit et qui est paru début 2023 et qui a été massivement pris en main par les acteurs et actrices, puisqu'on a environ 4000 personnes, 4000 structures qui sont allées créer un compte sur le site. Sur l'application, donc on a senti un véritable intérêt. C'est un outil qui permet donc de mesurer, j'allais dire en quelques clics, c'était l'idée, ça prend quand même un peu de temps de rentrer toutes ces données, ça donne, on a son impact carbone estimé à la fin, un score biodiversité ressources et puis aussi des pistes d'action. Et on a décidé, après avoir mis ça en œuvre en 2023, en 2024, de faire une étude pour se dire, bon, bah, en fait, qu'est-ce que ça a changé? Il y a 4000 structures, alors tout le monde n'a pas été au bout du process, mais en fait, qu'est-ce que ça a changé qu'ils aient été objectivés, leurs impacts environnementaux. Et donc, on a sorti une étude qui s'appelle Mesurer pour transformer, avec un point d'interrogation à la fin, qui est parue mi-2024, si je ne m'abuse, et qui est une étude à la fois quantitative et qualitative. Donc, on a été étudier tous les formulaires qui avaient été complétés au-delà d'un certain seuil pour se dire que faisaient les acteurs culturels, mais on a été aussi faire des focus group avec des acteurs qui avaient utilisé le site pour savoir ce que ça avait changé. Et alors, étonnamment, les résultats et les effets, en fait, de l'outil, de l'usage de l'outil, c'est davantage de sortir de la solitude pour les acteurs qui, du coup, ont des conclusions à montrer pour aller convaincre les personnes dans leur structure, leurs partenaires éventuellement. C'est aussi un outil de communication qui est en fait absolument nécessaire pour dire c'est ça, ça va être ça qu'on va faire. C'est un outil pour prévoir une trajectoire. C'est un outil pour créer du commun aussi, puisque ça permet d'aller rentrer en discussion avec le directeur ou la directrice technique pour demander des infos, etc. Mais finalement, en fait, le chiffre à la fin, il est assez peu utilisé, et même on voyait qu'il y avait une forme de quelque chose qui s'appelle la quantophrénie, quoi, cette un peu passion pour le chiffre mort, c'est-à-dire qu'à la fin, on a un chiffre, et puis en fait, on sait pas tellement ce qu'on en fait. Donc il y a une tentation systématiquement à vouloir le comparer à d'autres choses, sachant que, en fait, en réalité, on le sait, et c'est un peu pas forcément le propre du secteur culturel, mais c'est jamais toute chose égale par ailleurs, hein, donc on veut essayer de faire des tendances, mais en fait, on peut rien comparer, notamment d'un point de vue quantitatif. C'est comme comparer des budgets et se dire, il y a besoin d'une analyse, quoi, par-dessus ça. Et donc aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que cette approche aussi extrêmement technique, hein, et Arviva a été c'est quelque chose sur lequel on a plein de questionnements, parce qu'on sait que c'est une porte d'entrée. Les personnes qui adhèrent à l'association viennent beaucoup avec cette demande-là de comment réduire leur empreinte carbone, comment je fais pour trouver l'imprimeur le mieux de ma région pour réduire l'impact carbone et les brochures, etc. Et en fait, de plus en plus, on se rend compte que ça touche à des choses qui sont vraiment très liées à des questions d'organisation du travail, d'innovation plutôt organisationnelle, ce que pointait Frédéric, beaucoup plus que de la modification à la marge d'activités qui sont finalement inchangées. Et sur ça, même en revenant sur les termes qui étaient utilisés par le Shift dans ce rapport qui était quand même assez fondateur pour le secteur culturel, décarboné, la culture, qui parlait de différents types de transformations et notamment de transformations dites transparentes. On se rend compte qu'il n'existe pas de transformations transparentes. Elles sont potentiellement transparentes pour le public, elles ne sont pas transparentes pour les acteurs à aucun moment. Par exemple, se dire que un ensemble ou un orchestre va prendre le train pour aller à Berlin de Paris plutôt que l'avion, certes pour le public ça ne change rien, il ne le sait a priori pas. En revanche, ça a des implications sur le rythme de travail des musiciens et musiciennes, ça a une implication sur évidemment les coûts économiques qui sont associés, ça a des implications sur l'organisation pour le ou la chargée de prod, ça a des implications sur tout un tas de choses qui ne rendent absolument pas les choses transparentes et qui demandent en fait aux acteurs qui sont en volonté de faire ce genre de choses, de créer, de modifier en fait comment ils travaillent, à quoi ça ressemble, le rythme de leur travail, la manière dont ils négocient avec leur partenaire. Et aujourd'hui, c'est peut-être pour revenir aussi sur un peu le fait de dire rien n'a bougé juste avant. En fait, il y a plein de choses qui ont bougé dans la manière dont les gens travaillent, et notamment chez les personnes qui sont très motivées en matière de transition écologique. Il y en a vraiment plein dans le secteur culturel. Ce qui manque, c'est qu'elles ne sont absolument pas reconnues, elles ne sont pas soutenues, ces choses-là ne sont pas nommées, et donc ça risque de rester des pratiques isolées au sens de personnes dans des structures, ou isolées au sens de structures dans des écosystèmes qui sont en changé, qui s'épuiseraient en fait dans des pratiques qui ne sont pas nommées. Et je voulais juste revenir sur la question de la réussite, et je m'arrêterai là. ça pose aussi, enfin, tu demandais ce que ça impliquait en termes d'indicateurs de réussite aujourd'hui. On est aussi dans un secteur, et quand on parle du travail, c'est qu'on est dans un secteur qui est archi pressurisé. On est tous au maximum du maximum, au-delà du maximum de ce qu'on est en capacité de faire. Ce qui fait qu'on répond aux indicateurs, on remplit les indicateurs, plutôt que de se dire, eh ben, on va aller négocier avec son financeur, son partenaire, avec qui on a une relation qui n'est pas forcément une situation de discussion, enfin, il y a une domination, quoi, de fait. Et donc, on n'a pas le temps, en fait, de sortir la tête et de se dire comment je vais répondre à ce qui m'est demandé. Et c'est bien qu'on a tendance à avoir pris, et c'était aussi quelque chose qu'on a vu dans l'étude de Mesurer pour transformer, j'ai oublié le nom savant qui est associé à ça, mais de confondre les indicateurs pour les objectifs, quoi. C'est-à-dire qu'on considère maintenant que la réussite artistique, c'est tourner très loin, se produire devant des très grandes jauges, créer énormément. Et en fait, on ne se pose même plus la question de qu'est-ce qu'on cherche à produire. On a remplacé les indicateurs comme des indicateurs de réussite artistique sans se dire ce qu'on produit. Et moi, pour avoir tourné notamment dans mes précédents jobs en Chine ou aux États-Unis, on parle d'échanges culturels, et je trouvais ça marrant sur ces questions de localisation. Enfin, je peux vous assurer que moi, en tant que directrice de prod, on m'applaudissait, on me demandait des autographes à la fin des spectacles. Donc, en termes de lien avec les spectateurs, spectatrices, quand on est débarque et qu'on fait un spectacle quelque part, je me disais, mais donc je mets dans tous mes dossiers de subvention que c'est pour la beauté de l'échange culturel, les sensibiliser à la musique baroque, etc. Et en fait, je me disais, mais en réalité, est-ce que c'est ça qu'on fait quand on se débarque comme ça dans un pays? Donc, et ça, les indicateurs permettent pas de le questionner, et on a tellement la tête dedans parce qu'on est fatigué, sous pression en permanence, qu'on n'a plus du tout l'occasion, et personne n'a l'occasion aujourd'hui de se dire, mais ça n'a aucun sens.
Merci. Juste pour l'anecdote, on avait fait l'année dernière une journée de lancement avec ces 50 membres de la communauté pour recenser un peu les bonnes pratiques de chacun, et c'est un peu la boîte à idées de départ. Et le directeur justement du Citron Jaune, Pascal Cervera, lui avait suggéré que ce serait intéressant aujourd'hui de revoir ces critères de réussite en mesurant plutôt le nombre de vers de terre au mètre carré dans le sol plutôt que la fréquentation en critères aussi. Mais bon. Autrement, c'était une très longue question. Moi, je vais revenir plus sur les leviers qu'on a identifiés. Un des principaux leviers, selon nous, c'est la création de cadres communs pour partager les connaissances, objectiver certaines discussions et rendre visibles les arbitrages qui sont souvent implicites. Et on a remarqué que ces transformations, elles ne peuvent pas être portées par un seul acteur ou métier. Un exemple intéressant avec notre cas d'étude à la ville de Rouen, c'est que donc eux ils développent un programme de commande publique dans des espaces qui récemment ont été renaturés, et ces projets s'inscrivent dans une politique plus large de transformation écologique de la ville. Donc il y avait des créations de jardins, beaucoup d'espaces aussi qui étaient désimperméabilisés. Et des reconquêtes de sites qui auparavant étaient très artificialisés. Et ce qui était étonnant, c'est que avant le programme VIF, ils ne travaillaient pas forcément, enfin tous les services ensemble. Et depuis, bah, évidemment, le service culturel collabore avec les espaces verts, etc. Les échanges se sont structurés et ont perduré aussi après le projet. Donc ça, c'était un peu pour un des leviers aussi qui était la coopération inter-service. Et une autre chose aussi, c'est un peu j'en parlais tout à l'heure de la gouvernance partagée, mais l'idée, c'est pas de trouver une solution idéale, mais de construire des arbitrages. Et c'est un peu comme ça aussi qu'on a essayé de réfléchir le référentiel, que ce soit pas des outils qui servent que à mesurer, mais que ce soit surtout un support de discussion entre les différents métiers qui n'ont pas forcément les mêmes références ou les mêmes contraintes. Et on retrouve un peu cette logique aussi avec notre autre cas d'étude qui est la forêt monumentale que je présentais tout à l'heure. D'ailleurs, que je n'ai pas précisé, c'est la métropole de Rouen-Normandie, mais aussi avec l'ONF qui font ce projet-là. Et le projet, il associe des artistes, des commissaires, mais aussi des forestiers, des collectivités, des experts du territoire. Et donc chacun arrive avec ses objectifs et des contraintes différentes. Donc on se pose des questions diverses et variées, mais qui vont... Donc tous ensemble de bah, comment on accueille le public et comment on peut permettre la création dans un espace sensibles, comment préserver les sols, comment faire cohabiter aussi tous les différents usages, notamment les forestiers aussi, les gens qui viennent se balader en forêt en dehors de cette expo, etc. Et donc finalement ici les enjeux de biodiversité rendent visibles des tensions qui existent déjà, mais qui permettent d'être aussi un peu explicitées et qui obligent en fait à discuter ça collectivement. Et on a vraiment essayé avec ce référentiel aussi de rendre visible un peu tous ces impensés pour mieux comprendre les contraintes de chaque acteur à chacune des étapes. Et voilà, et peut-être juste un mot sur le fait qu'on est parti aussi de ce référentiel pour construire un nouveau socle de formation et de compagnonnage. Parce que justement la coopération est apparue comme une condition essentielle de la transition écologique et que l'enjeu maintenant n'est plus que de sensibiliser mais vraiment essayer de travailler aussi de pair à pair et accompagner concrètement et les acteurs culturels mais aussi avec les collectivités et les gestionnaires de sites et les acteurs du vivant dans la mise en œuvre de ces transformations. Et surtout, essayer de faire une montée en compétence qui soit collective. Et je voulais juste préciser que donc, grâce au soutien de l'État sur cette première année, il y a un tarif préférentiel.
Merci beaucoup. Nicolas, vous voulez peut-être réagir aussi sur la question des leviers ou sur d'autres aspects de cette question ?
Oui, je trouve ça vraiment intéressant, en fait... converge sur le fait que nous, en tout cas dans la manière dont les structures se sont posées cette question de la bifurcation écologique, on a pensé à travers des contrats de progrès, c'est-à-dire un modèle type avec des objectifs et des indicateurs qui seraient propres à l'ensemble des outils, mais de partir d'une réalité et de se donner des moyens de progresser, aussi bien d'ailleurs sur le plan écologique que social, sur un temps donné, et de se fixer ensemble un contrat dans lequel la collectivité part du réel de la structure, avec la structure, pour avancer sur un certain nombre de sujets. Et je pense que cette démarche-là, avec des indicateurs, c'est jamais inutile, mais en tout cas, une individualisation de l'approche et des capacités des structures et des équipes, c'est vraiment un point clé, parce que sinon on crée vite de la tension et du rédhibitoire, donc ça permet une appropriation et un travail commun. Moi je pense que les leviers, ils sont aussi beaucoup, pour ne pas être redondant avec ce qui vient d'être dit, ils sont aussi beaucoup sur des contenus. Je crois beaucoup à la capacité qu'on a, qui est spécifique à la politique culturelle, en plus à pouvoir accompagner le renouvellement des récits, le renouvellement des imaginaires, et que on a une responsabilité à la fois dans ce qui peut faire connexion entre l'art et les sciences, entre l'art et des formes de production alternatives indépendantes. On a en ce moment travaillé sur deux projets de musées qui pour moi sont assez complémentaires et emblématiques de ces questions-là. Un muséum qui est en train de se repenser complètement dans sa scénographie pour travailler la question de l'anthropocène et de l'habitabilité de la Terre et appeler à la responsabilité donc à l'engagement citoyen dans son parcours muséal. On développe aussi un projet de cité des imaginaires qui se fonde sur un musée Jules Verne où on prend Jules Verne un peu comme auteur emblématique d'un passage de du technosolutionnisme à une écriture du doute. Et ce qui est beaucoup moins connu de son œuvre, c'est que c'est puisque c'est un auteur nantais, c'est un auteur qui a beaucoup questionné le progrès et qui a été aussi un peu lanceur d'alerte dans la deuxième partie de sa production littéraire. Et on part de là pour interroger avec les cultures de l'imaginaire notre capacité à comme, comme Philippe K. Dick disait, si ce monde vous déplaît, allez donc en inventer quelques autres. Et à nous d'inviter, d'inventer ces nouvelles façons de faire commun, de faire utopie. Je pense que c'est quelque chose qui traverse beaucoup le champ artistique, que je reviens sur la question de la relation à la recherche et à la science, elle est un levier aussi et une demande aussi pour les scientifiques d'avoir des regards artistiques, autant que les artistes ont besoin d'avoir des regards scientifiques. On éprouve, nous, en ce moment, beaucoup sur le cinéma d'animation, par exemple, qui est un objet de travail. Et donc, je pense qu'il y a là quelque chose qui peut être vraiment intéressant à nourrir et à faire transformation dans les productions artistiques et les envies des artistes, qui sont eux aussi habités par l'éco-anxiété. Et donc, notre responsabilité de collectivité, c'est de leur permettre de la partager, mais aussi de la sublimer. Je pense que enfin, il y a un enjeu qui est essentiel. On y travaille un peu collectivement. C'est cette question qui est portée par Yves Citon autour de l'écologie de l'attention. C'est-à-dire que on pense aussi l'écologie dans la manière qu'on a de repenser la relation aux visiteurs, aux spectateurs, aux promeneurs, et de se dire que l'hospitalité et la curiosité sont toujours exposent, et que on doit proposer quand on est un musée de ne pas imposer une seule forme d'attention aux visiteurs, mais de lui permettre de traverser des états pluriels d'attention, de faire une politique du patrimoine où on passe de paysages à voir à des paysages à vivre, avec des déambulations, des flâneries, des balades. Citons dit que on aimerait bien être des papillons, mais on est des chasseurs. Et donc, nous, notre responsabilité de politique publique, c'est de redonner la possibilité à être papillon. Et je pense que la transformation, enfin, la question fondamentale de la transformation de la politique publique, elle se situe aussi là, dans une autre manière de faire curation. La curation, c'est le soin, hein, ça vient de cura, du soin. Et je pense que si on pensait ça comme un élément de santé de l'esprit, en plus que de penser tout ce qui fait bifurcation de notre impact écologique sur l'environnement, il y a une clé à déployer pour revendiquer le sens et l'utilité des politiques culturelles. Je dis juste pour finir, parce que cette utilité n'est pas gagnée. Nous, on vit cruellement sur notre territoire, mais je pense que tout le monde le constate aujourd'hui dans le débat public. Considérer que la culture est une catégorie d'intervention publique est un débat qui est cruellement réouvert et sur lequel il va falloir qu'on se batte aussi comme un élément d'une écologie de la communauté humaine.
Merci beaucoup. Il est 18h, je ne sais pas si on a le temps de prendre une petite question.
Oui, on va prendre quelques petites questions, ouais, c'est bon. Avec plaisir.
Très belle conclusion.
Donc, suite à ces différentes interventions et à cette table ronde au contenu plutôt très riche, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui ont des questions à poser à l'un ou à l'autre de nos intervenants et intervenantes? Ne vous battez pas. C'est la fin de l'après-midi, peut-être que ma voix est trop suave. Je suis en train de vous bercer doucement vers le soleil. N'écoutez que ma voix. Ah, ben voilà. Merci beaucoup.
Quand vous êtes avec des acteurs justement qui veulent vraiment ancrer la discussion avec des mesures quantitatives et que, comme vous disiez, on ne peut pas être obsédé par ces... Comment vous arrivez à les emmener sur votre terrain et finalement à... Encore une fois, c'est un peu la même question que j'ai posée précédemment pour la décision, quoi. Comment vous arrivez à, si vous n'êtes pas sur leur terrain, à les convaincre?
En fait, on ne les empêche pas. C'est-à-dire que dans le CACT, il y a des indicateurs qui sont marqués comme facultatifs. C'est toujours intéressant. Enfin, je fais l'anti-... je me présente comme une espèce de guerrière anti-indicateur, mais non, on va dire que... En plus, j'ai été inspectrice par le passé, donc j'ai utilisé les indicateurs pour faire mes rapports d'évaluation, donc je ne suis pas contre absolument. En fait, je pense surtout que ça peut servir, enfin, qu'il faut surtout que s'ils ont envie de s'en servir, ils s'en servent, parce que ça peut permettre de voir qu'on a progressé sur un sujet, un autre, et c'est très bien. Je pense juste qu'à l'endroit des questions écologiques, il y en aurait beaucoup trop. On a fait le test, en fait, on a essayé de mettre les indicateurs qu'il faudrait au CACT, et il y en a beaucoup trop. Deux, on en a marre. Trois, on n'arrive pas à les exploiter comme il faut, c'est-à-dire à les faire parler comme il faudrait. Parce qu'en fait, c'est ça, un indicateur, il faut le faire parler, ce mec le disait, si on n'analyse pas, si on ne le contextualise pas, il n'a aucun sens, enfin, vraiment aucun sens, à mon sens. Voilà, et il y avait un cadre sûrement, mais oui, il y a aussi le fait que sur les questions écologiques, pour beaucoup de ces indicateurs qu'on avait construits et qu'on propose, hein, dont ils peuvent se servir, on n'a pas de repères, et je pense tout le temps, le même exemple, j'en trouve un autre, mais... les déchets alimentaires, si une structure me dit j'ai baissé de 500 kg mes déchets alimentaires, bon bah c'est bien, mais est-ce que c'est très bien, est-ce que c'est extraordinaire, est-ce que c'est juste ce petit effort, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas de comparaison, et d'ailleurs sans doute la comparaison serait pas juste d'une structure à l'autre. Voilà, ça me semblait, je sais pas si c'est trop tôt ou en tout cas pas du tout pertinent à ce stade, mais après personne n'est interdit de les utiliser.
Peut-être, enfin, juste au niveau d'Arviva, quand on s'est réunis au tout début, évidemment, cette question d'indicateur et de l'objectivation de tout ce qu'on faisait, elle était centrale. Et on a l'impression qu'il y a quand même une forme de maturité dans la réflexion écologique qui tend à passer par une forme au début d'éco-responsabilité, par des éco-gestes, et qui après se généralise sur des questions de changement plus global, systémique, d'interaction, etc., d'interdépendance. Et donc, nous, ce qu'on identifie comme enjeu, c'est pas de dire aux gens qui sont sur des éco-gestes ou qui arrivent par ça, pas du tout, vous êtes complètement dans le faux, il faut détruire le capitalisme. Enfin, ils vont jamais adhérer, quoi. Enfin, certains arrivent avec ça, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, n'ont pas forcément mis en place ces éco-gestes. Mais se dire comment on fait pour aller le plus rapidement possible, parce qu'on peut pas se permettre d'attendre, enfin, de faire chacun notre petit chemin pendant 10 ans comme ça, pour enfin réussir à faire une bascule, quelle qu'elle soit. Donc pour nous, c'est notamment, on a un parcours qui s'appelle Baobab, pour un gros tronc commun, parce qu'on essaie de faire des blagues de temps en temps, et qui est justement exactement ça, on essaie de retracer nous, notre historique de compréhension des enjeux au fur et à mesure des différents travaux qui ont été portés par Arviva, on pense qu'un outil va tout régler, et on présente quelque chose comme ça, en fait on se rend compte que ça règle pas tout, donc on fait des études, donc on en parle avec d'autres gens, et donc on essaye de partager ce cheminement qu'on a eu nous-mêmes sur un certain temps, pour se dire que ça permet d'aller un tout petit peu plus vite pour d'autres. Et la conclusion qui était proposée aussi, on a aussi un enjeu maintenant à penser en quoi la place de la culture dans une société qu'on imagine écologique, dans une transformation plus globale de la société écologique, quelle est la place de la culture, quelle est la place du spectacle vivant. Il y a aussi ça qu'il faut qu'on participe de construire, et probablement que c'est pas exactement comme maintenant, c'est différent, quoi. Et sur les indicateurs, ça va faire d'ailleurs une très bonne transition avec la proposition d'empreinte territoriale, je pense, de Basile.
Bien, les mots « il faut détruire le capitalisme » ont été prononcés. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus ?
Je citais.
D'accord, c'était une simple citation, évidemment, qui n'engage aucune des personnes présentes au plateau. Allez, une dernière question. Allons-y.
Oui, à nouveau moi. Donc, j'étais obligée de rebondir parce qu'il faut détruire le capitalisme. Ça m'a fait penser à un truc. Récemment, j'ai vécu une scène où, en fait, j'étais en train de défendre tout ce qui a été dit là, c'est mon métier, éco-conseillère, avec tout un tas de festivals, je ne les nommerai pas autour de la table. Et donc, je défendais les leviers de coopération, de tout ce qu'on a partagé là. Et puis, il y en a un qui dit, oui, mais de toute façon, tout ça, c'est très beau, mais au final, c'est les gros qui ont les sous et qui écrasent tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? C'est ce que ça me fait penser à ce que, Solveig, ce que tu disais, en fait, on a mis plein de choses en place, mais en fait, il existe encore toute cette grosse machine qu'on n'arrive pas pour l'instant à transformer. Je me pose là.
Bah vas-y, Emma.
Je sais pas du coup si c'était plutôt destiné à Solveig ou pas, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi, que enfin, finalement, nous, on a créé une communauté de 50 structures qui ont des pratiques hyper vertueuses. Et d'ailleurs, parmi elles, il y a vraiment de tout type de structures avec des budgets très différents. C'est ce que je disais, on s'est aperçu que c'était pas forcément les grosses structures qui ont les plus gros leviers d'action, parce que d'ailleurs, finalement, plus la structure est petite, plus c'est facile à mettre en place directement dans la gouvernance des actions, etc., tandis que certaines grandes structures, ça prend 6 mois de trouver un créneau pour faire une réunion. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Et c'est sûr qu'après, de faire des diagnostics, biodiversité, ça a un prix, etc. Mais c'est là où, justement, le référentiel aussi, il est assez intéressant, parce qu'on n'est pas du tout sur des logiques de bilan carbone qui peuvent prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, qui nécessitent de regrouper énormément de corps de métier qui chacun ont un travail colossal à faire de récolte de données, de traduction, de machin, là. Nous, notre référentiel, il est un peu plus simple. Mais ce qui est bien, c'est que finalement, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. On va vraiment se poser les questions à absolument chaque étape. Mais on a d'ailleurs une première partie qui est que la gouvernance et ensuite que la préservation de l'établissement culturel. Et ensuite, on décline la programmation, le choix du site, la temporalité, la fabrication, la logistique. On passe aussi par la médiation avec les sciences humaines jusqu'à la fin de vie. Et donc finalement, là, on parle d'un outil qui est open source, qui est gratuit, où on peut, qui d'ailleurs a aussi différents niveaux. On dit au début si on est débutant, intermédiaire ou avancé, et tout s'adapte, les questions, etc. Et à la fin, ça nous sort quand même un score et des diagnostics et des plans d'action, etc. Mais donc, en fait, à toute échelle, à tout budget, on peut quand même faire sa part. Et plus on est une petite structure, plus vite ça peut se mettre en place très concrètement avec des petites actions. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais...
J'ai pas de réponse. Si j'avais la réponse à ça... Je serais très contente, mais je ne l'ai pas. Et je pense qu'on a plein de phases d'impuissance, de sentiments d'impuissance. Enfin, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans le secteur, et notamment pour les gens qui se sont engagés et des personnes au sein d'Arviva qui sont là depuis 6 ans. On commence à se dire, mais on ne sait plus quoi faire, quoi. Enfin, vraiment, il y a cette idée-là. Juste récemment, c'est ma réflexion du moment, c'est qu'on se sent tout le temps un peu impuissant en disant, ouais, il y a toujours plus gros que nous, on est toute petite partie dans un rouage, etc. Et en même temps, des personnes qui vont beaucoup voir des spectacles, par exemple, dans des très grandes salles avec beaucoup de monde, nous partagent, ou même en tant que personne qui programme ça, on me dit, ah bah oui, c'est un moment où il y a une communion, on se sent faire partie d'un tout, on se sent participer à quelque chose. Et donc, je me demande juste comment on peut appliquer ce truc-là quand on est dans une fosse de spectacle, on se dit, ah bah oui, tu participes à quelque chose, alors qu'en fait, on est une toute petite partie d'un tout, quoi. Ou c'est le type de Shell qui raconte ça, quoi. En fait, on est une toute petite partie. Comment on peut le voir positivement, comme on le voit quand on participe à un spectacle, plutôt que négativement, je peux rien faire parce que je ne suis qu'une toute petite partie. Donc... Enfin, j'ai pas de réponse à ça, mais récemment, ça m'a un peu... Voilà, je me suis demandé si ça pouvait nous aider.
Je veux bien compléter, parce que c'est une question qui est souvent complexe à l'endroit d'une collectivité, parce que naturellement, je partage que c'est souvent dans les petites structures que ces questions-là sont les plus vite mises en œuvre. Et peut-être consensuel que dans les grosses. C'est vrai aussi à l'endroit de la collectivité, c'est-à-dire que si on veut pouvoir accompagner un changement des pratiques, il faut que nous-mêmes on change nos propres pratiques. On a par exemple une responsabilité bâtimentaire qui fait que si On n'a pas la capacité aujourd'hui à transformer en 5 ans l'ensemble du patrimoine des années 70-80 pour permettre à ce que il y ait des questions thermiques et énergétiques qui se règlent dans pour des équipes ou des projets, des lieux qui se battent avec de toutes petites actions et qui auraient vraiment besoin qu'on refasse le toit déjà pour que ce ne soit plus une passoire thermique, il faut que nous, on soit exemplaires aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que non, il y a un enjeu, en tout cas, on doit une collectivité à être cohérente. Et là, on est en train de. On a annoncé qu'on allait rendre gratuit les transports pour toute visite culturelle, toute sortie culturelle. Et ben, ça donne. On a senti que ça donnait aussi envie à des acteurs qui étaient plus trop dans cette question de la transformation écologique d'y revenir. Et je pense que c'est important que le mouvement se fasse de part et d'autre. Et j'ai une dernière chose, c'est que pour ceux qui hésitent parce qu'ils sont, comme tout le monde, la tête dans le guidon de comment on survit, il y a quelque chose qui est simple, c'est que ça fait du bien de faire ça. Voilà. Et je trouve que tous ceux qui l'ont fait en sont sortis, tous ceux qui s'y sont engagés vont mieux.
Merci beaucoup.